Allons continuer à réfléchir sur ces diverses parties de la théologie. Avant, je lis les quelques questions posées. Dans votre énumération des différentes parties de la théologie, vous ne mentionnez pas la théologie positive, ni la théologie fondamentale. Théologie positive, je n'aime pas beaucoup le terme. C'est très récent. Il n'y a pas de théologie positive. Il y a une théologie. La théologie positive, qu'est-ce que c'était exactement? C'était tout l'aspect historique. Donc, c'était ça. Donc, la théologie positive, si je prends les diverses parties de la philosophie, de la théologie positive est impliquée dedans. Oui. C'est ça qui me semble beaucoup plus important. La théologie positive était faite sous quelle lumière? Est-ce que c'est une sagesse? Les distinctions que nous ne connaissions pas au seul choix. Et je crois qu'on avait raison. Quand on prend saint Thomas, théologie positive, théologie morale, tout ça c'est la théologie. Il y a une théologie scientifique, il y a des lumières différentes. C'est ça que, vous voyez, ces distinctions-là ont été faites très matériellement. Très matériellement. Et si celui qui a posé la question, ça lui offre une véritable question, j'aimerais bien qu'il puisse expliciter un peu. Si ça lui pose une question, ça ne lui pose pas de question. C'est simplement pour savoir. Vous comprenez? La théologie positive, la théologie de l'Église, va impliquer tout ce qu'on voit dans la théologie positive, habituellement. Et je crois que c'est beaucoup plus juste. De voir le point de vue du développement du dogme, du développement des aspects. Théologie positive, c'est à partir, je crois, du XVIIe siècle. Ce sont des distinctions très matérielles qui sont venues d'un morcellement de professeurs de théologie et pas du tout une vision par rapport à la parole de Dieu. Je suis parti au point de départ, vous voyez, sur qu'est-ce que c'est que la théologie. Et j'essaie de comprendre par rapport au mystère de la parole.
Est-ce qu'on pourrait faire par exemple appeler théologie positive une théologie qui explicite le donné brut par exemple des écritures à l'aide de la foi et par exemple des sciences bibliques telles que le ferait par exemple.
Vous seriez d'accord que l'exégèse est une théologie positive? Pas du tout.
Je pense que dans la théologie positive, on met par exemple quelque chose comme la patrologie ou
l'histoire
des doctrines.
Mais c'est ça, mais c'est impliqué dans l'éclairage de l'Église. Et c'est vu sous un point de vue. C'est ça qui m'intéresse, c'est que ces divisions-là étaient des divisions matérielles. Oui. Alors que nous avons repris exprès qu'est-ce que c'est que la théologie.
Est-ce que vous connaissez par exemple des ouvrages du Père Braun? Je prendrai pour référence ceux qu'il a consacrés à Jean le théologien.
Oui.
Et à sa théologie.
Oui.
Plus précisément, il développe les idées maîtresses de l'évangile de Saint Jean.
Oui.
À l'aide de la foi et des sciences bibliques.
Oui.
Mais je vois mal, par exemple, dans quel type de.
Est-ce que c'est pas dans la théologie biblique, ça?
Oui, mais il le qualifie théologie biblique, mais il ne semble pas que ce soit ainsi que vous le compreniez, vous.
Mais oui, théologie biblique. Jamais.
Parce que.
Et l'Ancien Testament et le Christ. Est-ce que la théologie de Saint-Jean, c'est pas le Christ? le terme de la théologie. Il y a toute la théologie de l'Ancien Testament, et puis le mystère du Christ qui aboutit, et tout ce qui suit dans le qui nous montre tous ces aspects particuliers, mais qui sont théologie biblique, c'est pas de la théologie positive. Oui, il y a peut-être là, justement, au point de vue, j'aime mieux ça, moi. Je crois qu'on peut faire une théologie biblique sur la manière dont saint Jean regarde le mystère de Jésus, la manière dont saint Paul, la manière dont les évangiles, les épîtres, ce qu'on fait ordinairement du reste. Une théologie biblique est une réflexion, on verra exactement, par rapport à l'exégèse. C'est là où l'exégèse est indispensable pour la théologie biblique. Oui, elle est beaucoup, beaucoup moins nette quand il s'agit de la théologie scientifique. Oui. Ce qui m'a toujours très gêné dans ces distinctions qui viennent du 17e, 6e, c'est des distinctions matérielles où on ne voit plus ce que c'est que la théologie. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on, exprès, on a repris tout fondamentalement qu'est-ce que c'est que la théologie. Quand on dit théologie positive, moi j'ai presque l'impression que c'est un contresens. Parce que positif, qu'est-ce que c'est? Alors on dit l'histoire, les documents. C'est pas ça la théologie. La théologie tend à une sagesse. Elle doit être sagesse. Elle est sagesse. Parce qu'elle touche toujours quelque chose qui est ultime. Oui. Ou bien alors, vous avez une topique historique que vous diriez pour théologie positive. Oui. Mais ça fait partie, il me semble, ou de la théologie de l'Église, ou de la théologie biblique. C'est bien de poser vos questions, parce que c'est fait pour ça. Donc il faut les poser. Oui.
Par rapport à, tout l'aspect de la gloire, parce que là, on a l'impression qu'en théologie scientifique, il y a le point de vue de l'intelligence, de l'amour en théologie mystique.
Mais est-ce que la gloire ne vient pas de l'amour? Est-ce que la gloire, ce n'est pas la victoire de l'amour? La gloire divine. Donc c'est impliqué. En théologie mystique, il y a tout un aspect de théologie de la gloire. Je suis entièrement d'accord là. Oui. La gloire de Dieu, c'est quoi? Théologiquement.
Parce que c'est toujours ce que reprochent un peu les orthodoxes, on ne développe pas assez dans les
la théologie mystique. Le grand reproche, c'est ça. C'est par la théologie mystique qu'on retrouve la théologie. Parce que dans la théologie mystique, il y a la gloire. La gloire de Dieu est inséparable de son amour. Et c'est le resplendissement de son amour. C'est la victoire de son amour. Oui, c'est la différence avec la gloire humaine. La gloire humaine, c'est au fond le fait que, après certains actions héroïques, tout le monde vous proclame. Donc ça vient de la proclamation des hommes. Vous avez la gloire. Ça vient des autres. Tandis que Dieu, ça vient de lui-même. Et quel est le mystère de la gloire de Dieu? Je crois que c'est le mystère de son amour victorieux et plaigné dans un épanouissement de beauté. La beauté est prise dans la gloire. Oui. Il me semble. Pour moi, la théologie de Balthazar, elle est du côté de la théologie mystique. Elle est un élément de la théologie mystique. Mais ben, je ne peux pas ramener toute la théologie mystique à la gloire. Tandis que je dis, dans la théologie mystique, il y a ce point de vue de la gloire. Oui.
Oui, mais c'est pas toujours... explicite chez, dans l'Église.
Ah, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de théologie mystique dans l'Église. Vous voyez ? C'est ça le gros point de vue. Les orthodoxes n'ont pas de théologie scientifique. Ils n'ont qu'une théologie mystique. Mais ils ont développé ça, avant tout, et en premier lieu. Et c'est à cause de ça qu'ils ont développé le point de vue de la théologie de la gloire.
Ça semble bien être le sommet.
Mais la théologie mystique, c'est le sommet.
Mais pourquoi on n'en a pas, pourquoi elle n'a pas été développée ?
Mais ça, c'est un fait. C'est pour ça que je vous le donne. C'est pour ça que je vous le donne et je dis qu'actuellement, ce serait très important. Je vous ai dit, j'essaie de réfléchir sur ce qu'il me semble. On assiste à un émiettement de la théologie. C'est pour ça que certains disent il n'y a plus de théologie. Ou au contraire, on essaie, à partir du donné de ce que représente la révélation, comprendre comment l'intelligence humaine, alors ce serait la seconde partie de la chose, comment se servir de la philosophie dans ces différentes parties. Oui. La seule théologie de la gloire que je vois, c'est la théologie de Balthazar. Oui. Ce qui me gêne, c'est qu'elle n'est pas assez, voyez, prise dans une théologie mystique. Voilà. Et la théologie mystique est ce qu'il y a d'ultime. Plus que la gloire. Puisque le fondement de la gloire, c'est l'amour. Il me semble, hein, je vous donne ça, je vous dis, c'est une réflexion que depuis un certain nombre d'années, sur laquelle je réfléchis, parce que je crois que c'est très important. Pour moi, l'école Saint-Jean devrait progressivement vivre de ça. Alors, on voit Saint-Thomas, on va voir demain la place de Saint-Thomas que représente exactement le point de vue de la théologie de Saint-Thomas. Ce n'est pas toute la théologie. Saint Thomas reconnaît qu'il faut une théologie mystique. Et il l'a reconnu surtout dans son commentaire des noms divins. Il n'a plus dit beaucoup après. Mais quand même dit. Et là, il dit que c'est une théologie symbolique. Parce que l'amour s'exprime surtout par un symbole. Mais je suis d'accord que c'est très important de développer ce point de vue-là. Pour moi, c'est par la théologie mystique qu'on fait le pont avec les orthodoxes. On aurait une vraie théologie mystique. Alors, montrer. Eh bien, je crois qu'ils entreraient dans cette théologie mystique. Et par là, ils pourraient comprendre la nécessité d'une théologie scientifique. Parce qu'on ne peut pas faire une vraie théologie mystique sans théologie scientifique.
On a regardé un peu Rahner et Hans Kuhn, tout ce fondement métaphysique de leur théologie. Est-ce que cela est aussi visible en Hans Fuchs von Balthasar ? Est-ce qu'il y a là le fondement métaphysique de sa pensée visible ou...
De la gloire.
Oui, c'est ça.
Il est très poète, très spirituel et poète. Oui.
Mais est-ce qu'il y a une assurance dedans qu'il reste quand même dans la théologie de l'Église, ou est-ce qu'il compare seulement la conclusion avec celle de l'Église ?
Qui ?
Oui.
Oh, il est pleinement d'Église.
Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quand même un fondement d'intelligibilité que...
Pas tellement. J'ai pas tout lu, Hans Balthasar. J'ai lu quelques-uns, j'ai lu surtout ce qu'il faisait pour essayer de redonner cette théologie de la gloire. Ça m'a beaucoup intéressé, parce que je trouve que c'est très intéressant, et puis que ça n'a pas été du tout dit. Et j'ai essayé de réfléchir là-dessus, pour me dire où ça se situe. Je crois que c'est par rapport à une théologie d'amour, parce que la gloire regarde la personne, vous voyez. personne qui est glorieuse. Or, c'est dans la théologie mystique qu'on voit tout de suite le point de vue des personnes. Alors, encore une autre question. Vous nous avez dit qu'une philosophie ou une théologie ont autorité en théologie dans la mesure où elles atteignent la vérité. Mais qui nous dit qu'ils l'atteignent? J'espère, chacun d'entre nous, qu'on arrive quand même. Vous étudiez pourquoi? Pour atteindre la vérité. Donc, c'est le théologien ou le philosophe qui, en fonction de son travail, sa réflexion philosophique, au bout d'un certain temps, est capable de discerner l'erreur de la vérité. J'espère. Et en dernier lieu, sera l'Église, en théologie, pas la philosophie. La philosophie, c'est le philosophe. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a?
Je crois que la pile est morte.
Ah, ça c'est... Vous n'entendez rien. Ah oui, ah oui. Ah, ça c'est autre chose. Je l'entends pas, moi.
Continuez.
Ah bon, on revient. Mais qui vous dit qu'il l'atteigne? L'Église ou notre jugement personnel? La philosophie? Le jugement personnel. La vérité en théologie, le théologien le fait toujours en référence à une théologie d'Église. La théologie d'Église. C'est pour ça qu'on prend saint Thomas. C'est que l'Église nous dit que saint Thomas nous donne une théologie sûre. Oui, en dernier lieu, c'est l'Église. Le théologien, en tant que théologien, comme l'exégète, Dreyfus a le droit de chercher ce qui lui semble être vrai et de combattre toute une série d'études exégétiques. Et on atteint quand même une vérité. Alors, peut-être que cette vérité ne sera pas acceptée par les autres, parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents. Alors ils n'atteindront pas, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé. On en est tout le temps comme ça, tous les points de vue philosophiques. Je ne cherche pas l'approbation des philosophes pour faire ma philosophie. La philosophie a elle-même et en elle-même son critère de vérité, qui est la connaissance de la vérité par rapport à la réalité. C'est du reste pour ça qu'il y a tant de modalités de philosophie. Continuons. Que voulez-vous dire par intelligibilité quand vous dites que la théologie scientifique cherche à saisir l'intelligibilité de la parole de Dieu? C'est-à-dire, ce qui est intelligible pour moi, ce qui est que mon intelligence est capable de saisir pour mieux adhérer au mystère. La parole de Dieu est un enseignement. On est tous d'accord. Dieu nous enseigne. Alors, est-ce que cet enseignement est intelligible? C'est de saisir dans la parole de Dieu l'enseignement de Dieu pour moi. Sur Dieu, sur le Christ, sur l'homme, sur l'Église. C'est bien ce que fait saint Thomas. Il saisit la parole de Dieu en tant qu'elle m'enseigne. Je saisis la parole de Dieu en tant qu'elle est donnée à travers tout un devenir, l'histoire du peuple d'Israël. Et en définitive le Christ. Je saisis dans la parole de Dieu en tant que l'Église en vie. Elle est la bonne terre qui vit le mystère de la tradition. Je vis la parole de Dieu en tant qu'elle implique le don, l'Eucharistie, le Christ qui se donne à nous, Marie qui nous est donnée, tout le mystère de l'amour. Alors, intelligence mystique, il y a un dépassement de l'intelligibilité, puisque c'est l'amour. En théologie biblique, le devenir de la parole de Dieu. Et puis, en théologie de l'Église, le point de vue de la tradition. Alors, vous écoutez comme ça, donc. Ah oui, c'est vrai que... Ça tient à quoi, ça?
Il va changer de... C'est parce que la pile est usée, là.
Ah! Ah oui. Là, je comprends, alors, quand la pile est usée, tous les virus viennent. Assez de force pour eux. Alors voyez, c'est présent dans toutes les parties de la théologie, je suis d'accord. Mais il y a dans la théologie scientifique quelque chose de tout à fait particulier. C'est du reste pour ça que c'est la plus difficile. C'est sûrement la plus difficile. Et saint Thomas a compris, et je crois que là il y a eu une grâce particulière, qu'il fallait faire ça. C'est là où il a inventé quelque chose de nouveau. L'intelligence scientifique, c'est propre à saint Thomas. Alors, on peut le critiquer si on ne comprend pas son effort, mais je crois que c'est extrêmement important parce que grâce à cette intelligence scientifique, je peux organiser toutes les autres parties. Alors que je ne pourrais pas le faire autrement. Alors, dernière question. Le peuple d'Israël n'a-t-il pas connu, lui aussi, une croissance, comme l'Église, plutôt qu'une histoire? Je ne marche pas dessus. Il vivait déjà la grâce chrétienne. Oui, je suis d'accord. C'est évident qu'il y a une croissance. Mais c'est pas ça qui caractérise. Vous voyez? Il faut faire attention. C'est évident qu'il y a une croissance. C'est évident qu'il y a une histoire d'Église. C'est pas ça qui caractérise l'Église. C'est évident que la théologie de l'Église a une intelligibilité. Mais c'est pas ça qu'on cherche en premier lieu. Je distingue selon les raisons formelles, si vous voulez, pour prendre un langage précis. C'est comme ça qu'on fait les divisions. Hein. On ne peut pas les faire autrement. Autrement, on les fait matériellement et on retombe dans la théologie positive. Là, c'est des raisons formelles. Donc, qui distinguent, qui ne séparent pas. Il n'y a aucune séparation. C'est pour ça que c'est la théologie. Je crois que la théologie catholique implique tout cela. Et j'essaie, parce qu'on est en présence de fêtes, de petits bouts à droite et à gauche, et on ne voit pas comment ça s'organise. Comme je vous donnais l'exemple de la théologie mystique, je demandais au père Paul Philippe, le cardinal, ensuite, quelle est la raison formelle de votre enseignement de théologie mystique? Et je ne sais pas. Je trouve ça très gênant qu'enseigner la théologie mystique sans avoir la raison formelle, c'est-à-dire ce qui la distingue formellement de la théologie scientifique de saint Thomas. Ah non, c'est plus. Ça serait. Jean de la Croix. La théologie mystique a quelque chose d'objectif qui se rattache directement à la révélation. La conduite des âmes, c'est l'application. Il me faut une théologie mystique pour pouvoir diriger. Vous voyez, la direction spirituelle, Sainte Thérèse dit avec beaucoup de force, ça m'a toujours frappé, la grande sainte Thérèse, qu'on doit prendre comme directeur de conscience plus un théologien qu'un saint. Vous allez dire, c'est parce qu'elle était sainte qu'elle disait ça. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est vraiment ce qu'elle disait était très juste. C'est que la direction spirituelle a besoin de la théologie. Et que c'est, en quelque sorte, l'application au point de vue prudentiel d'une prudence éclairée par la grâce, éclairée par le don de conseil, qui me permettra d'avoir une direction spirituelle qui soit objective. Et c'est pour ça qu'il me semble que la théologie mystique regarde vraiment dans l'Écriture tout cet aspect d'amour. Et qu'au fond, on a très peu. C'est quand je regarde la théologie des orthodoxes, je vois qu'ils sont très pris par ça. L'amour et la gloire. Oui, alors, on va essayer maintenant, une fois qu'on a ce petit tableau, réfléchissez-y. Puisque la théologie, oui.
Est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont la causalité exemplaire permet d'ordonner la théologie ?
Oui, bon, je vais le faire maintenant. Parce que ça, c'était un petit peu aperçu avant. Et on a dit que la théologie était toujours liée à la révélation, sous ses formes diverses. Mais la parole de Dieu joue ce rôle tout à fait capital. Puis, la philosophie. Toute théologie implique ce concours de l'homme et de la révélation. De la révélation et de l'homme. Alors, je me suis toujours posé le problème. Je m'excuse de donner le point de vue personnel, mais comme dans ce domaine-là, j'essaie de réfléchir personnellement, puisque je n'ai pas vu, j'ai lu sur la théologie biblique certaines choses, du reste, il y a des points de vue très différents, je comprends très bien, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion critique sur la théologie biblique, au niveau théologique. Il n'y a pas eu de réflexion critique sur la théologie mystique. Il n'y a pas eu de réflexion critique sur la théologie de l'Église. J'ai regardé ce que le père Concard disait. Je ne peux pas être d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il dit que la théologie de l'Église, c'est le théologien qui se sert de la science biologique. Alors, je ne peux pas être d'accord avec ça. La science biologique ne peut pas être immédiatement assumée par la foi. Et c'est comme ça qu'il en arrive, il dit ça dans les jalons, d'une philosophie, du laïcat, parce que je me suis précipité dessus. Parce qu'il nomme toute une série de volumes pour la théologie de l'Église. Et comme il n'a pas le temps de tous les faire, il prend tout de suite le dernier. Donc le dernier est très significatif comme le premier, l'alpha et l'oméga. Et alors, il dit textuellement, la vie est périphérique. Il dit ça en raison de la science biologique. Elle est périphérique. Vous comprenez que c'est très gênant de dire ça par rapport à la théologie. Parce qu'en réalité, c'est les manifestations de la vie qui sont périphériques. C'est pas la vie. La vie provient toujours de l'intérieur. Toute opération vitale, ça vient de l'âme. L'âme n'est pas périphérique. Et comme la science biologique ne regarde pas l'âme, on voit les manifestations. Alors je ne peux pas faire une théologie sur les manifestations. Théologie de l'Église. Et ça explique, tu restes pas mal de choses au point de vue apostolique. On aimera toujours mieux aller regarder les choses périphériques que d'approfondir la contemplation dans l'Église. On regardera tout de suite le domaine des sectes, le domaine des athées. C'est très bien d'avoir ce zèle apostolique. Mais attention, la vitalité de l'Église n'est pas périphérique. Elle provient de l'intérieur. Alors c'est là où j'ai compris en regardant attentivement qu'au fond, la philosophie du vivant n'est plus enseignée. Et Pierre Congard le reconnaît, donc il prend la science biologique. Donc il manque une philosophie du vivant pour pouvoir faire une théologie de l'Église. C'est ce que j'essaie de montrer avec vous. C'est assez délicat, mais je crois que c'est intéressant à y réfléchir. Donc à titre de réflexion. Parce que je vous donne ça à titre de réflexion. Hein. Je dis personnellement, depuis une vingtaine d'années, je réfléchis là-dessus. Et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide énormément pour mieux comprendre les diverses manières de regarder ce qui révélait. Alors, la philosophie part, une philosophie réaliste, qui part de ceci est, jugement d'existence. Je vois que ceci est commande directement une philosophie première. C'est sûr. Ceci est commande. Première, philosophie première. Mais ceci est, nous est donné à travers ce qui se meut, ce qui est mu. C'est une division classique. Donc, philosophie du vivant, philosophie de la matière. Ce qu'on appelait philosophie de la nature. J'aime presque mieux dire philosophie de la matière. Ceci est, implique aussi le point de vue de la personne humaine. Je suis. Toute ma philosophie est entre ceci et je suis. Le je suis me permet de regardez ce qu'est la personne au niveau métaphysique. Mais la personne humaine, je ne la connais parfaitement qu'en regardant ces diverses opérations. Et donc, j'ai l'opération de l'activité artistique. L'opération éthique ou morale. Et puis, l'opération politique. Tout ça, c'est le je suis. Et à partir de là, se développe la philosophie de l'art, la philosophie éthique et la philosophie politique. On connaît bien ces diverses formes de la philosophie. C'est très classique. Je les reprends de cette manière-là, plutôt que de les donner selon une tradition thomiste. Je les reprends exprès. Et là, je modifie toute la tradition thomiste, qui était une tradition scolastique, qui, je crois, n'était pas tout à fait juste. Le fondement de la philosophie, c'est la philosophie pratique. Et on s'élève de là à une philosophie spéculative. Tandis que la scolastique disait, ce que le père Garrigou a continué de dire, la connaissance, la philosophie spéculative est première, et on en fait l'application. À l'activité humaine. Mais ce que je crois très faux, puisque la philosophie pratique étudie les activités humaines, dont j'ai une expérience directe. Et j'étudie ces activités humaines pour elles-mêmes. De sorte que je dirais, on commence par le point de vue de la philosophie de l'art, puis la philosophie éthique, philosophie politique. Ceci, c'est la base de toute philosophie réaliste. On peut rester là. y en a beaucoup qui restent là. Mais je ne considère pas ça comme toute la philosophie. Dans la recherche de la vérité, dans la recherche de ce que c'est que l'homme. Cette philosophie pratique, Aristote l'appelle la philosophie humaine. C'est la philosophie humaine. Puis je m'élève de là à une recherche de connaissances spéculatives. Et cette connaissance spéculative, je découvre d'abord la philosophie de la matière, puis la philosophie du vivant, puis la philosophie première. Donc, trois parties dans la philosophie pratique, trois parties dans la philosophie éthique, dans la philosophie spéculative. Et cette philosophie première, elle a ce privilège tout à fait particulier d'aboutir à une découverte de l'être premier qu'on appelle Dieu, et elle sera théologie naturelle. Et à partir de là, elle devient sagesse. Et elle a donc un privilège d'avoir non seulement une recherche, mais aussi un jugement de sagesse, ce que je crois capital, qu'on a très peu développé, très peu développé. Mais je crois que c'est très important parce que ce n'est qu'au niveau de la sagesse que la philosophie peut être immédiatement utilisable par la foi. Tout le problème est là. C'était la thèse de Monseigneur Brincard qu'il était en train de faire, puis entre deux, il a été nommé évêque, alors. La thèse, cool. Parce que je lui avais dit, comme c'est quand même quelqu'un qui avait déjà pas mal travaillé spéculativement, j'avais dit, il y a une thèse que je voudrais faire, c'est celle-là. Alors faites-le. Montrez comment la philosophie peut être immédiatement utilisée par la foi. C'est quand même un problème très important. Il faut que la philosophie atteigne la sagesse pour être immédiatement utilisée par la foi. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. La foi commence tout par Dieu. Si la philosophie n'atteint pas Dieu, inutilisable. Une anthropologie fermée à une anthropologie est inutilisable pour la philosophie, pour la théologie. Parce que la foi est sagesse. Elle regarde tout au point de vue de Dieu. Donc il faut que le philosophe, lui, atteigne le mystère de Dieu pour être disponible, utilisable pour la théologie. C'est un point capital, ça. Mais je rejoins ce qu'on avait vu au début de la session, mais de façon beaucoup plus précise. Exprès. Je ne vous ai pas dit le secret avant. Maintenant, je vous le dis. Alors, ça, ça n'a jamais été dit. Du moins, je ne l'ai jamais vu. Et ça me semble capital. Et au point de vue critique, je crois que c'est très facile à comprendre. Pour utiliser quelque chose, il faut un point de contact. Si c'est totalement divers, il n'y a pas de point de contact. Alors on fait la mélasse. L'utilisation d'une science ne peut se faire s'il y a un point de contact. Quel point de contact entre la philosophie et la foi? Ça ne peut être que le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, assumant le mystère de l'homme. Alors, une fois que vous avez vu ça, vous allez tout de suite comprendre. Dans la somme théologique de saint Thomas, saint Thomas utilise-t-il beaucoup la philosophie de l'art? Il en parle. Toujours dans la morale, pour comprendre. apparaît, mais pas directement de là. On peut l'utiliser. Dans sa somme théologique, il utilise, oui, toutes ces parties de la philosophie, mais toujours en tant qu'elles sont vues dans un regard de sagesse. Tout peut être vu dans un regard de sagesse. Et c'est sous ce point de vue-là qu'il utilise. On comprend très bien. Puisqu'il utilise analogiquement tout ce que la philosophie dit, dans une analogie ultime. Alors, c'est là où je me suis demandé, est-ce qu'au fond, ces diverses parties de la théologie ne vont-elles pas utiliser toujours la philosophie dans un point de vue de sagesse ? La sagesse liée à l'art, liée à la morale, liée à la philosophie du vivant, liée à la philosophie de la nature. Parce que c'est différent. Je vais donc avoir quatre grandes utilisations. La sagesse qui utilise la philosophie de l'art et la philosophie morale, théologie mystique, qui est toujours double, causalité exemplaire, causalité finale, commencez à voir, oui, puisque l'art met la causalité exemplaire, mais l'art, vu dans un point de vue de sagesse, unit la causalité exemplaire et la causalité finale. Que saint homme a dit à propos de la création. Le point de vue de la sagesse lié à l'aspect politique et le vivant, c'est l'Église. Le point de vue de la sagesse lié au devenir et l'aspect politique, vous avez toute la théologie publique. En comprenant bien que tout est transformé par le point de vue de la sagesse, c'est toujours la sagesse. Et avec des modalités différentes. De sorte que toute ma philosophie, dans sa fine pointe de sagesse, me sert à développer le mystère de la parole. Je viendrai demain, parce que je vous laisse ça pour rêver ce soir.